France Culture. Réplique « Qu'est-ce qu'un paysage ?» avec Michel Collot et Benjamin Oliven. Jamais autant parler d'écologie, mais on ne s'est jamais aussi peu préoccupé du paysage. Souhaitant renverser la tendance, j'ai invité aujourd'hui deux philosophes. Michel Collot, qui publie « La face sensible de la Terre », et Benjamin Oliven, l'auteur de « L'autre art contemporain ». C'est aux rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau que j'emprunterai ma première question. La Terre, écrit Rousseau, offre à l'homme, dans l'harmonie de ses trois règnes, un spectacle plein de vie, d'intérêt et de charme. Le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent jamais. Plus un contemplateur a l'âme sensible, plus il se livre aux extases qu'excite en lui cet accord. Une rêverie douce et profonde s'empare alors de ses sens et il se perd avec une délicieuse ivresse dans ce beau système avec lequel il se sent identifié. Reconnaissez-vous dans cette description l'expérience du paysage, Michel Collot?
D'abord, merci pour l'invitation et puis pour introduire notre conversation par cette citation de Rousseau, parce qu'évidemment, il est sans doute l'un, enfin, peut-être celui qui a introduit dans la littérature de la manière la plus marquante, justement, ce qu'on appellerait banalement le thème du paysage, mais qui est beaucoup plus. Et il le fait en évoquant en effet l'expérience sensible. La sensibilité est une catégorie qui est assez largement répandue dans la philosophie du XVIIIe siècle. C'est une valeur même. Et ici, elle permet à Rousseau d'entrer dans le paysage. Et ce qui est assez frappant par rapport à le sous-titre de mon essai « Paysage et écologie », et le titre, la face sensible de la Terre, c'est que, au départ, donc, on a la Terre, on a les trois règnes de la Terre, on a la vie, qui sont en fait les dimensions qu'explorerait aujourd'hui une conscience qu'on pourrait qualifier d'écologique, mais il le fait à partir d'une expérience qui est une expérience sensible. Le mot, d'ailleurs, revient sous la forme de ses sens, et puis sensible au double sens du terme, c'est-à-dire accès par les sens, et en même temps, il dit bien les yeux et le cœur. C'est-à-dire que je crois qu'en effet, l'expérience du paysage est une expérience qui s'adresse aux sens, d'ailleurs pas seulement peut-être à la vue, et qui résonne dans la sensibilité entendue au sens aussi de l'affectivité. Alors, on a parfois reproché justement à ce sentiment du paysage de projeter les états d'âme d'un sujet sur le monde. Donc aujourd'hui, on critiquera le côté anthropocentrique. Or, ce que dit Rousseau, c'est qu'il s'agit d'un ravissement. Il parle aussi d'une extase. Il dit qu'il se perd. Et donc, l'expérience du paysage est à la fois entièrement inscrite dans la sensibilité d'un sujet et en même temps le fait sortir de lui-même pour aller à la rencontre du monde et franchement, au point de s'identifier d'ailleurs à lui, franchement, pour moi, en effet, il y a là comme la conjonction des éléments tout à fait essentiels d'une expérience du paysage.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre « La face sensible de la Terre », vous citez une autre phrase absolument merveilleuse de Rousseau. « Je vais devenir plante moi-même un de ces matins ». Oui. Donc ce n'est pas effectivement de l'anthropocentrisme, ce n'est pas la réduction du monde à l'humain, c'est au contraire une manière de sortir de soi. Benjamin Oliven.
La manière dont, comme l'a dit Michel Collot, Rousseau introduit le paysage dans la sensibilité, dans la pensée, dans la littérature européenne, est nouvelle, mais si elle a touché toute l'Europe, c'est parce qu'elle probablement touchait quelque chose de très profond en nous. Rousseau réagissait contre ce qui était déjà une modernité, c'est-à-dire la vie de l'homme en société, le développement de la raison, le développement des arts, des techniques, la vie sociale, dont il avait l'impression qu'elle risquait de dépraver l'homme. Et contre la vie en société, il en a appelé à la bonté originelle de la nature, une nature qui était pour lui pré-rationnelle. Et c'est pour ça qu'il se rapportait à elle sur le mode de la sensibilité, de la sensation. Et c'était à la fois nouveau en Occident, et ça a eu une influence extraordinaire sur toute la sensibilité, et notamment sur ce qu'on a appelé le romantisme. Il a ouvert un siècle, qui est le 19e siècle, qui est un grand siècle de la peinture de paysage, et un grand siècle de la poésie romantique et de la prose. Et d'ailleurs, on pourrait dire, il est amusant de constater que l'héritage politique de Rousseau, ça a été le jacobinisme, mais que son héritage esthétique, ça a été le romantisme, et de voir quelqu'un comme Chateaubriand, par exemple, critiquer les effets politiques de Rousseau et vouloir se mettre à la hauteur du prosateur extraordinaire qu'était Rousseau dans ses descriptions de paysages. Tout ça pour dire que cette sensibilité de Rousseau au paysage était nouvelle, elle a été formulée dans ces termes, et qu'en même temps, c'était, si elle nous a touchés, c'est qu'elle mettait le doigt sur quelque chose qui avait déjà été dit avant Rousseau, qui est le fait que l'homme a un rapport avec la nature. Mais alors, que l'homme vient de la nature, s'en éloigne dans le cours de son développement, et pourtant se retourne vers elle, se tourne vers elle, et s'étonne de la nature, et contemple son inscription dans la nature.
Donc, en fait, vous le dites l'un et l'autre, notre rapport au paysage a une histoire, et je voudrais vous demander quelle est la part jouée par les peintres, les écrivains, les poètes dans notre représentation, dans notre expérience, dans notre sensibilité au paysage. Michel Collot.
Oui, c'est une histoire qui est en Europe, hein, pour se limiter à cette ère culturelle, comme on dit aujourd'hui, est repérée comme, disons, émergent de manière un peu consciente au XVIe siècle, d'abord parce que le mot paysage dans les langues européennes apparaît au XVIe siècle. Et c'est frappant parce que ça concerne les langues romanes, mais aussi les langues germaniques, notamment l'anglais ou le néerlandais. Et ce qui est frappant, c'est, comme je suis littéraire, un peu de philologie, c'est la formation du mot. On a « pays » et on ajoute ce suffixe « age ». Et « paysage », comme « paesaggio », « paesare », dans les langues romanes, si on invente ce mot, c'est que quelque chose s'est passé. Et ce quelque chose, c'est certain, c'est l'avènement d'une peinture qui va faire passer le paysage de l'arrière-plan où il était tenu, notamment arrière-plan de scènes sacrées, à un premier plan dans lequel il occupe la place la plus importante, les figures pouvant être encore présentes, mais d'une certaine façon laissant au paysage la part principale, la place principale, voire presque exclusive. C'est-à-dire qu'on voit apparaître progressivement ce qu'on a appelé le paysage comme genre, c'est-à-dire une représentation du paysage pour lui-même et non comme simple décor.
Chez quel peintre, par exemple?
Par exemple, Patimir, Patimir est un des premiers, je crois, dans l'histoire de la peinture européenne, à donner au paysage une ampleur extraordinaire. Je me souviens encore de mon étonnement face à un tableau qui s'appelle l'Extase de Sainte-Madeleine.
Extase.
Oui, l'Extase de Sainte-Madeleine. Mais écoutez, il faut vraiment regarder de très près pour apercevoir, mais à échelle minuscule, dans un grand tableau, une petite figure en suspens, on dirait un insecte, c'est Sainte-Madeleine en extase, et tout le paysage imaginaire censé représenter la Sainte-Baume, et lui enveloppe complètement le visiteur, le spectateur, alors que la figure là aussi, la figure sacrée peut-être, est-ce qu'on peut dire que ça a à voir avec une certaine laïcisation de l'art ? Et avec aussi peut-être la promotion justement du point de vue, et donc du point de vue aussi individuel. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que cette montée en puissance du paysage en peinture est accompagnée aussi de la montée en puissance du portrait individualisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à un type, mais c'est l'homme ou la femme prise dans sa ressemblance, dans son identité personnelle. Et les deux sont liés étroitement. Alors cela dit, je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps, mais cette importance de la peinture dans l'émergence de la notion même de paysage a été interprété par notamment Alain Roger comme le signe qu'au fond nous voyons un paysage parce que les peintres lui ont donné une forme et une image. Je pense qu'il faut rétablir une interaction entre l'expérience dont on vient de parler et la représentation picturale du paysage. Je crois que les peintres n'auraient pas représenté le paysage si il n'y avait pas eu aussi cette expérience. Et d'ailleurs, les dictionnaires, avec un peu de retard, le premier dictionnaire d'Estienne en français dit « mot commun entre les peintres », mais un peu plus tard, dans le dictionnaire de Furetière, on trouve la définition qui est aujourd'hui passée en premier dans les dictionnaires, y compris celui de l'Académie, qui est, avec des variantes, étendue de pays qui s'offre à un observateur.
Benjamin Oliven.
Cette définition me fait penser à la définition qu'a donnée Poussin de la peinture, que j'avais notée. C'est une imitation faite avec lignes et couleurs, en quelques superficies, de tout ce qui se voit dessous le soleil. Sa fin est la délectation. Et c'est la définition de la peinture même, et donc mais aussi de la peinture de paysage, puisque Poussin est l'un des grands noms de l'émergence de la peinture de paysage. Pour revenir sur ce qu'a dit Michel Collot, effectivement, il y a une peinture de paysage en Chine, mais en Occident, en Europe, ce qui se passe, c'est que et il y en avait sans doute une sous une forme ou une autre dans le monde gréco-romain. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est qu'à la Renaissance, il y a dans l'Europe chrétienne une redécouverte de cette connaissance de la nature qui venait des Grecs. Et d'ailleurs, nature, c'est un mot qui vient du grec, la fusis, et du latin natura, mais qui n'est pas présent, par exemple, il n'y a pas de mot nature dans la Bible. Et l'Europe chrétienne redécouvre la nature, et c'est la peinture de la Renaissance qui, effectivement, se tourne vers la peinture et la fait apparaître progressivement, fait de la nature le sujet même de ces tableaux. Et donc on a parlé de Patinir et effectivement la Renaissance, les peintres italiens. Et puis il y a un autre grand moment qui est la mise en place du paysage idéal au XVIIe siècle avec Poussin et Claude.
Oui, alors j'ai pensé en vous écoutant tous les deux à une très belle phrase de Merleau-Ponty. « L'être est ce qui exige de nous création » pour que nous ayons l'expérience. Donc peut-être, en effet, avions-nous besoin des poètes et des peintres pour regarder le monde et pour le ressentir. Donc, voilà, c'est sur cette expérience des paysages. Mais le paysage aujourd'hui, et entrons dans l'actualité du sujet, est en danger. Il est en danger, et il me semble, vous avez intitulé votre livre, sous-titrer votre livre, paysage et écologie, Michel Collot, il me semble que l'écologie officielle n'en a rien à faire. Et je donnerai l'exemple des éoliennes. Les éoliennes, comme l'écrit Bérénice Levet dans son livre « L'écologie ou l'ivresse de la table rase », les éoliennes ne s'insèrent pas, ne se fondent pas dans le paysage, elles l'écrasent. L'éolienne en mer, même, bouche l'horizon. L'horizon auquel vous consacrez des pages importantes de votre livre, Michel Collot. Et un autre écrivain, Michel Bernard, dit ceci, « Une éolienne n'est pas laide en soi, mais dans son rapport avec l'environnement où elle a été dressée. Leur gigantisme proliférant brise les proportions auxquelles nous sommes accoutumés de naissance et de génération en génération en tout lieu. Les plus grands chênes paraissent des nains, de ridicules miniatures dans leur voisinage, une forêt, une rêche moquette, une rivière, une rigole. Ce qui, dans la nature, inspire le sentiment de la grandeur, de la majesté, de la noblesse, de l'éternelle force de la vie, tout cela est humilié par des machines. Le malaise éprouvé à traverser ces étendues hérissées n'a pas d'autre origine, c'est un déracinement du regard humain. » Voilà où nous en sommes. Or, l'écologie ne raisonne qu'en termes quantitatifs. J'ai vu sur Arte une émission où on discutait exclusivement des avantages comparés des énergies fossiles, du nucléaire et des énergies renouvelables. La question du paysage, de l'insertion dans le paysage, ne se posait pas. Donc, comme si l'écologie, finalement, était un appendice de la technique, c'est-à-dire c'est le raisonnement du monde, une modalité de cet raisonnement, c'est l'écologie, et on va utiliser le vent comme le Rhin est un fournisseur d'énergie hydraulique, selon Heidegger, aujourd'hui, eh bien les éoliennes fourniront de l'électricité. Et c'est ce que l'écologie semble vouloir. Alors, que penser de ce divorce si visible, si prononcé, entre l'écologie et le paysage? Pourquoi cet abandon du paysage par l'écologie officielle, en tout cas, Michel Collot?
C'est par ce dilemme ou ce dissensus que j'introduis ce livre, parce que, ayant parcouru beaucoup la littérature écologique, et ayant évidemment, venant du paysage, une sensibilité à ces questions qui sont aujourd'hui celles de la dégradation de nos paysages. L'un des premiers colloques dans la période récente qui a eu pour objet le paysage, qui avait été dirigé par Dagonier, s'appelait « Mort du paysage ?». Et il est apparu dans les années 80, disons le dernier quart du XXe siècle en France, que c'est précisément les menaces qui pesaient sur le paysage qui ont suscité, on en est hélas un peu éloigné aujourd'hui, un regain d'intérêt considérable pour la question du paysage en philosophie, dans les sciences humaines et sociales, et aussi de la part des artistes et des écrivains. L'écologie telle qu'elle s'est développée depuis, je vous avais raison de le dire, se fonde finalement essentiellement sur des statistiques, sur une évaluation de la biodiversité, sur l'évaluation du réchauffement climatique, qui sont des données évidemment tout à fait importantes, mais semble ignorer en effet ce que j'ai appelé la face sensible de ces phénomènes. Or, je crois que c'est tout aussi important de respecter cette dimension sensible de notre rapport à l'environnement. Et pour ce qui est des éoliennes, moi, ce qui me frappe, c'est que j'avais invité dans un colloque, c'était dans les années 90, ça s'appelait « Le paysage état des lieux », une équipe qui travaillait sur ce qu'on peut appeler la pollution visuelle. où il apparaissait, par exemple, que EDF faisait des études d'impact quand il s'agissait d'installer des lignes à haute tension avec les pylônes que ça suppose. Mais il y avait préalablement à l'installation de ces pylônes une étude très sérieuse sur l'impact visuel de ces installations. Il semblerait que pour les éoliennes, on s'en soit dispensé et qu'en effet, il y a d'une part une disproportion, il y a d'une part la question du lieu de l'installation. Et ce qui est paradoxal, c'est que du point de vue même de l'écologie, elles ont aussi des méfaits. Alors, premier méfait, parce qu'on pense toujours en écologie d'abord aux autres vivants, que sont par exemple les oiseaux ou les poissons. On sait qu'il y a menace pour les oiseaux et pour les poissons. Mais n'oublions pas les vivants que nous sommes. Et Dieu sait si les riverains peuvent se plaindre, notamment du bruit généré par les éoliennes. Alors, puisque technique il y a, puisque vous avez raison de dire que, en fait, tout est dans cette perspective, finalement, commandée par des impératifs technologiques, économiques. Mais si technologie il y a, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de produire de l'énergie renouvelable par des moyens beaucoup moins agressifs pour ce qui est justement des paysages. Et je pensais, alors je vais me faire traiter évidemment de passéiste, mais une des très belles choses que les peintres hollandais ont constamment peint, c'est le moulin. Le moulin qui est parfaitement intégré dans le paysage et qui produisait cette énergie à une échelle qui était une échelle humaine. Alors, les échelles ont changé, mais qu'est-ce qui empêcherait les technologies aussi raffinées qu'aujourd'hui on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qui empêcherait justement d'arriver à capter l'énergie du vent autrement que par ces géants qui, en effet, défigurent le paysage.
Qu'est-ce que vous répondez, justement, Benjamin Oliven, à cette question des éoliennes et à ce paradoxe de l'indifférence écologique des écologistes?
Je suis tout à fait d'accord. J'ai essayé très sérieusement de donner une chance aux éoliennes et ça ne marche pas. Enfin, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi qu'on dise. Mais pour revenir à l'histoire du paysage, l'histoire de la sensibilité au paysage, je crois que ce qui s'est passé, c'est que le XXe siècle a été un siècle où il y a d'autres valeurs, pour employer ce mot, qui sont devenues plus importantes que le beau ou la nature, ou l'inscription de l'homme dans la nature. Et par exemple, la question de l'histoire. Et c'est aussi un des effets de Rousseau, c'est-à-dire que l'idée que l'homme est historique, l'homme est un être de progrès. Et enfin, certaines des valeurs que Rousseau contestait, c'est-à-dire l'utile, ont aussi pris le pouvoir. Et donc, on a pu détruire le paysage au nom de l'utile et au nom du progrès. D'abord parce que l'art de cette époque s'était lui-même mis dans la catégorie du progrès et dans la catégorie et sans lien avec en coupant le lien avec la nature et avec l'imitation de la nature. Et c'est donc cette mise de l'histoire du progrès et puis aussi de l'utile, de ce qui est techniquement utile, de ce qui est efficace et puis enfin de la justice sociale. Toutes ces valeurs ont pris le pas sur l'idée d'inscription de l'homme dans la nature. On le voit dans l'art et la destruction du paysage en est l'une des conséquences.
Oui, mais ce qui est paradoxal avec cette question des éoliennes, c'est qu'on détruit le paysage au nom de la lutte contre les dégâts du progrès. Le progrès a fait des dégâts, on a les éoliennes, ça va éviter les émissions de gaz à effet de serre, je ne sais quoi, et donc on milite absolument pour l'implantation. Mais là, justement, je voudrais vous citer une justification, en quelque sorte, de Greenpeace, de l'association Greenpeace, la manière dont Greenpeace justifie les éoliennes, et ça m'a été opposé, parce que ça fait quelque temps déjà que je milite contre cet enlaidissement, cette industrie, cette transformation des paysages en paysages industriels, par les éoliennes, et ça énerve un certain nombre de personnes, et il me retourne ceci, là je cite Greenpeace. « Trouver une éolienne moche ou jolie, c'est une histoire de goût personnel, et l'on ne se risque pas à commenter vos goûts et vos couleurs. Elles attirent le regard, car il s'agit de constructions récentes, bientôt nous ne les verrons plus, ce n'est qu'une question d'habitude. » Là je pense à Milan Kundera, l'omniprésence de la laideur du monde moderne, miséricordieusement voilée par l'accoutumance, l'habitude, ressurgit brutalement dans les moindres de nos moments de détresse. Greenpeace ne connaît pas de moments de détresse. Mais surtout, surtout, et ça je veux vraiment vous entendre, on me dit ça, c'est une question de goût, t'aimes pas les éoliennes, mais tu veux pas emmerder. Après tout, c'est des espèces de moulins aussi. Tu vas pas nous embêter tout le temps avec ça, tais-toi. Et là, je pense à ce qu'écrivait Gérard Genette dans l'œuvre de l'art. Il reprend à son compte la proposition subjectiviste. Dire « c'est beau » signifie seulement « j'aime ça ». Le sujet esthétique juge l'objet beau parce qu'il l'aime et croit l'aimer parce qu'il est beau. Voilà. Et il dit « on ne peut pas aller au-delà de cette proposition subjectiviste, on ne peut pas dire qu'un objet est objectivement aimable. Alors je voudrais savoir ce que la philosophie, ou une certaine philosophie, peut répondre à cette proposition subjectiviste qui m'est très souvent opposée dans mon combat, non contre les moulins à vent, mais contre ces aérogénérateurs. Michel Collot. Oui. Venez à mon aide.
Alors justement, ce qui est frappant dans la citation que vous faites de Greenpeace, c'est les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que tout se passe comme si, justement, la face sensible, c'est pour ça que j'ai vraiment donné ce titre à mon essai, comme si cette face sensible était comme décorative et n'avait pas véritablement aujourd'hui d'enjeu de pertinence. Or, en réaction contre cette attitude, je constate quand même que un courant actuel de l'écologie se réclame d'une écologie du sensible, c'est-à-dire de réintroduire justement dans la réflexion, la pensée, peut-être l'action en faveur de l'environnement, cette composante-là. Du sensible, et c'est très important parce que au fond c'est aussi cette expérience sensible qui peut nous motiver pour justement préserver à travers le respect des équilibres naturels, préserver les paysages qui sont notre rapport sensible à la nature. Et pour ce qui est de la beauté, j'avais proposé dans un essai précédent de à propos du nouveau sentiment de la nature de le qualifier d'éco-sensibilité, et je l'entendais dans les quatre sens, c'est-à-dire comme Rousseau, c'est par les sens que nous y avons accès, mais la sensibilité, c'est aussi la sensibilité esthétique. C'est la beauté qui nous motive aussi, et c'est une expérience partagée. Ça n'est pas singulier, ça n'est pas le goût de chacun. Et je renverrai, puisque vous voulez évidemment porter à juste titre la question au niveau philosophique, tout simplement peut-être à la notion de sens commun chez Kant, qui est pour lui le fondement même du jugement de goût. Il y a un sens commun. Je citerai, alors c'est un poète, mais ce qu'il dit est, je crois, d'un intérêt philosophique aussi, c'est Rilke, dans un très beau texte qui s'appelle, je crois, la mélodie des choses, et il dit, à propos du paysage, que c'est justement ce qui réunit, ce qui est le commun. Finalement, le paysage est le commun, et la beauté repose sur un sens commun qui est partagé, évidemment, avec des critères qui varient selon les cultures, selon les époques, selon les lieux, mais qui, malgré tout, concernent justement la sensibilité. Il y a, et même un philosophe de l'écologie comme Baptiste Morisot en vient à dire que il y a véritablement un intérêt tout à fait vital pour ce qu'il appelle l'émerveillement, ce que Julien Gracq appelait le sentiment de la merveille. Et ce qu'une des pionnières de l'écologie, Rachel Carson, avait appelé elle-même le sens de la merveille. Son Printemps silencieux est considéré comme un livre pionnier sur l'expression littéraire de la crise environnementale. Mais parallèlement, cette femme qui était une scientifique a écrit un petit texte sur le sens de la merveille et fait de l'éducation des enfants à la beauté du monde et de la nature, véritablement une pièce tout à fait centrale de ce qu'on peut considérer aussi comme une prise écologique et l'esthétique, souvent rejetée par l'écologie. Et on constate que dans l'écologie politique, la part faite à la culture, aux arts, à la littérature. Je ne sais pas si vous connaissez des hommes politiques qui se réclament de l'écologie et qui s'appuient sur ces disciplines de la sensibilité.
Bon, ils ne le font pas. Et le sens de la merveille, on peut l'éprouver aussi en regardant l'océan. C'est ce que dit également Bérénice Levet dans son livre, ce colloque solitaire avec un océan vierge de toute pollution visuelle, quand il n'y a pas. Quand l'horizon n'est pas barré par les éoliennes, et elle cite Valérie, « la mer, toujours recommencée, ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux ». C'est sûr que ce ne sont pas des vers que récite fréquemment Sandrine Rousseau. Mais Benjamin Oliven, la beauté, c'est aussi une préoccupation de l'autre art contemporain. Face à un art, justement, qui veut s'émanciper de ce critère archaïque. Alors, quels sont vos arguments en faveur de la beauté, Benjamin Oliven ?
Justement, l'idée que le fondement de la vérité est subjectif, que le sujet est le centre et le fondement de toute vérité, c'est une idée qui est fondatrice de la pensée moderne, puisque c'est Descartes. C'est le sujet qui est le pôle à partir duquel s'organise la vérité. Et d'ailleurs, pour Descartes, et pour les fondateurs de la pensée moderne, la nature n'est pas bonne. La nature est une mauvaise mère. C'est une marâtre, peut-être créée par un malin génie. Chez Hobbes, elle est violente. Et il s'agit par l'artifice de remédier à ses défauts et de s'en rendre comme maître et possesseur, de la dominer. C'est cette subjectivité qui a présidé à la pensée moderne. D'ailleurs, Heidegger disait que l'un des critères de la modernité, c'était l'entrée de l'art dans l'horizon de l'esthétique, c'est-à-dire cette idée que pourtant nous bouleverse chez Rousseau, que le rapport à l'art et le rapport à la beauté est un rapport subjectif de sensibilité qui vient de la personne. Et le meilleur remède qu'on pourrait imaginer à ce subjectivisme, ce serait de revenir à l'idée grecque de l'étonnement philosophique devant la nature. C'est ma version de la merveille, l'étonnement devant la nature qui est belle et qui est connaissable, qui est un cosmos, qui serait d'un même mouvement, admirable, en ordre et connaissable. Et je pense que ce sentiment de la contemplation à la fois intellectuelle et esthétique de la nature préside à toute esthétique classique, et je pense que c'était encore le cas pour Poussin. Poussin considérait que la nature était belle et était en ordre, même dans ses violences, même dans un orage, même dans une tempête, même dans un déluge. Alors évidemment, revenir à l'idée du cosmos, c'est difficile, notamment parce que nous n'avons plus la vision d'un univers hiérarchisé, organisé, finalisé. Nous voyons l'univers comme un ensemble de petites particules infinies et chaotiques. Donc c'est compliqué. Mais je crois que ce lien de l'homme au tout, à la totalité, à la nature, a essayé d'être pensé, justement en réponse à la philosophie moderne, par les phénoménologues, par Husserl, par Heidegger, dans leur langage et en prenant en compte ce qu'on savait de du rôle de la subjectivité, en parlant d'une ouverture de, pour parler de langage d'Heidegger, d'une ouverture de l'homme à l'être. Et c'est justement l'idée que l'homme est cette créature de la création qui est concernée par le tout et qui a un lien avec ce tout. Alors ce lien se dit de différentes manières selon les époques de la métaphysique, mais je crois que c'est la manière peut-être dont on peut espérer sortir du subjectivisme moderne. Alors, je n'ai pas répondu à votre question sur l'art, mais...
Non, mais vous avez quand même très bien répondu. Je dirais aussi qu'il y a peut-être un lien entre ce subjectivisme, chacun ses goûts, le chacun ses goûts de Greenpeace, et le développement, non seulement de la science, mais de la démocratie moderne, au sens tocquevillien, de développement graduel, de l'égalité des conditions. Donc, toute hiérarchie est abolie, et de l'égalité, on en arrive où tout est égal. Voilà. Tu penses ça, je pense ça, on va pas en faire un fromage. Mais cela étant, si la beauté du monde n'est plus prise, est exclue par cet égalitarisme du sens commun, son enlaidissement, finalement, ne connaît plus d'obstacles, ne connaît plus de freins. Je reviens à Rousseau. Après tout, ces paysages, et même les peintres dont vous parliez, partaient d'une séparation nette entre la ville et la campagne, quand même. Or, qu'en est-il de cette séparation quand, et je cite ici Renaud Camus, la banlieue devient le fond du paysage, sa matière, sa base. La campagne, on peut le voir aujourd'hui, n'est plus qu'un vestige dans les tentacules de l'urbanisation universelle. Donc, les sujets d'extase de Jean-Jacques Rousseau, ou les objets, se raréfient sans cesse.
Comme neige au soleil.
Comme neige au soleil, oui, exactement. Michel Collot.
Oui, alors j'ai consacré un chapitre de mon essai au paysage urbain.
Oui.
Et ce qui m'a beaucoup frappé et intéressé, c'est que cette locution paysage urbain n'apparaît qu'assez tard dans la langue française, fin du 19e siècle, et surtout dans le vocabulaire des urbanistes, son apparition coïncide justement avec ce développement des villes, d'abord leur extension, ce qu'on appelle en anglais « endless city », et d'autre part, l'industrialisation des techniques de construction, qui fait que, paradoxalement, c'est au moment où l'extension des villes les coupe du paysage environnant, que les urbanistes, les architectes, ou du moins certains, prennent conscience de ce phénomène et éprouvent la nécessité de repaysager la ville. C'est un défi énorme. Je rappellerai quand même qu'une des premières images de paysage qu'on repère dans l'histoire de la peinture européenne, c'est les effets du bon gouvernement qui sont au Palazzo Pubblico et...
C'est où ?
À Sienne.
C'est à Sienne, oui, bien sûr. C'est à Sienne et c'est bien antérieur, d'ailleurs, à Patinir, que je citais tout à l'heure. Et ce qui est très frappant, c'est la représentation d'une ville et le passage de cette ville aux campagnes qui l'entourent, qui se fait d'un côté harmonieusement parce qu'il y a un bon gouvernement, et de l'autre de façon tout à fait chaotique parce qu'il y a un mauvais gouvernement. Et donc, une des tâches possibles serait justement de requalifier ensemble de la ville contemporaine pour y réintroduire le paysage, pour permettre aussi aux citadins de la voir comme paysage. Il y a un très beau livre de Kevin Leach qui avait introduit la notion d'imagibilité, c'est-à-dire de créer dans la ville, pour les citadins, quelque chose qui puisse justement faire image, c'est-à-dire paysage. Et il a
interrogé les habitants des grandes métropoles américaines et il a constaté qu'il y avait un besoin, par exemple, d'étendue, de nature, de présence de nature en ville. Alors cela dit, je serais moins pessimiste que Renaud Camus. On peut aussi sortir des villes et se ressourcer dans les paysages. Mais il y a éloignement. Il y a éloignement, alors que pendant un moment, par exemple, voir une ville, il y avait une notion dans le domaine de la gravure ou de la peinture qui était paysage de ville. Et qu'est-ce que c'était paysage de ville ? C'était la ville vue dans son paysage. Sauf que, évidemment, le paysage s'est considérablement éloigné et que les tentatives existent. Mais c'est un défi et il n'est pas sûr qu'il soit relevé parce que la logique économique fait que la ville continue à s'étendre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on peut sortir des villes. La question est de savoir si on peut sortir de la banlieue. C'est autre chose. Mais et à cet égard, j'aurais peut-être une autre question parce que, pour revenir une seconde aux éoliennes... Elles ne s'insèrent pas dans le paysage, elles ne sont pas dans le paysage, elles l'écrasent. Et il se trouve que de plus en plus de monuments, de plus en plus de bâtiments, construits par des architectes un peu mégalomanes, aussi n'ont plus aucun souci de leur contexte spatial. Et là, je citerai Jean Baudrillard. Je trouve ça très, très intéressant. À quoi bon réconcilier ces monstres urbains, Beaubourg, la Villette, Défense, Opéra, Bastille, etc., avec la ville ou le quartier qui les entoure ? Ce ne sont pas des monuments, ce sont des monstres. Ils ne témoignent pas de l'intégrité d'une ville, mais de sa désintégration. Non de son organicité, mais de sa désorganisation. Ils ne rythment pas la ville et ses échanges, ils sont projetés sur elle comme des objets extraterrestres, comme des engins spatiaux, chus d'un désastre obscur. Leur attraction est de l'ordre de la stupéfaction touristique. Est-ce que c'est pas une manière, si vous voulez, d'abîmer le paysage urbain sous couleur de le glorifier, Benjamin Oliven?
Oui, bien sûr, les architectes stars du XXe siècle ont voulu créer des bâtiments par lesquels ils se faisaient remarquer eux, et en pensant plus à eux comme à leur signature d'architecte qu'à l'inscription dans le paysage. On peut penser, par exemple, un architecte que au demeurant j'aime bien, qui est Frank Gehry, qui fait des bâtiments de Frank Gehry partout dans le monde, à Sydney, à Arles, à Los Angeles. Alors que justement, l'architecture pendant très longtemps était inscrite dans un paysage en employant des matériaux qui étaient par exemple propres à la région. Par exemple, en Touraine, on utilisait le tuffeau. À Paris, cette espèce de pierre grise. Donc il y avait cette espèce de lente accrétion de la ville dans sa campagne. Et c'est ça qui a donné les villes que nous avons tant aimées ou que nous aimions tant, qui sont des chefs-d'œuvre de subtils dialogues entre la ville et la campagne, entre la nature et la culture, entre la civilisation et la nature. Par exemple, on peut penser au parc, au jardin public, qui était une manière très très raffinée d'organiser la présence d'un peu de nature dans une ville. Alors que les tendances aujourd'hui, je pense à ce qui se passe à Paris, c'est un peu l'indétermination, c'est-à-dire on arrache les grilles des arbres, on laisse pousser dans les rues, on laisse pousser les herbes folles.
Oui, sous prétexte de végétaliser la ville,
voilà.
C'est ça.
Au lieu de laisser à la nature, au lieu de construire des endroits dans la ville, qui sont comme des poumons et où la nature est présente, comme Central Park à New York ou le Jardin du Luxembourg à Paris, on la saupoudre un peu partout. Ce qui fait qu'on a à la fois l'impression d'une ville sale et d'une nature sale. Enfin, il y a une sorte de déséquilibre. Moi je suis très frappé de l'un des hauts lieux de l'histoire de la peinture de paysage, c'est Rome, où Poussin et Claude ont peint et où ensuite Corot a contribué à inventer le paysage de plein air. Et Rome est encore un chef-d'œuvre de subtil dialogue entre différentes couches temporelles, l'Antiquité, le Vatican, la Rome baroque et la campagne romaine. Enfin, c'était, voilà, et donc, dans une couleur qui n'appartient qu'à Rome. On pourrait parler de Venise aussi, mais voilà.
Et ce n'est plus le cas à Paris, selon vous, Benjamin Oliven ?
Je crois qu'il y a une tentative de... Je pense que Paris est ou est-elle l'une des plus belles villes du monde. Mais il y a une volonté aujourd'hui d'aménager à toute force Paris, où il est évident à l'œil nu que le critère n'est pas la beauté. Je ne sais pas quel est le critère d'ailleurs, mais c'est sans doute ce qu'on appelle l'inclusivité, mais ou une écologie, mais qui n'est pas comprise en termes de beauté. Donc le paysage parisien, si on regarde des photos d'Adjay ou des tableaux anciens, le paysage parisien est beaucoup moins lisible, beaucoup moins plaisant à l'œil qu'il n'était il y a 50 ans.
Oui, le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, disait évidemment Baudelaire, et avec la maire de Paris, ça change très vite. Michel Collot.
Oui, alors je voudrais quand même apporter quelques nuances à ce jugement sévère sur l'architecture contemporaine. Je crois qu'en effet, il y a eu une période véritablement d'une sorte de style international où on ne se souciait pas du contexte dans lequel le bâtiment s'inscrivait, et il s'inscrivait comme un objet, indépendamment de son entourage. Ce qui est, entre nous soit dit, anti-écologique, puisque ce qui est une des forces de la pensée écologique, c'est de penser la façon dont les choses se tiennent ensemble. Et c'est aussi une des forces, de la notion même de paysage, qui veut dire une vue d'ensemble. Alors, il y a quand même des contre-exemples et des efforts aujourd'hui. On a parlé beaucoup d'architecture située, par exemple, ce souci de... Et je vais citer quand même quelques exemples d'architecture. Je vais donner... excusez-moi, mais je vais au concert ce soir. Sur le parc de la Villette, il y a eu une première construction qui est la Cité de la Musique, qui a été créée par Christian de Porzampac. C'est un bâtiment que je trouve très beau, qui est de forme tout à fait contemporaine, mais parfaitement proportionné au site dans lequel il s'implante.
Il y a aussi d'autres bâtiments au même moment.
Et ben voilà, et il a fallu agrandir, et donc c'est la Philharmonie de Paris, qui est une espèce de baleine qui se pose là, à mon avis, je n'ai pas contre l'architecte. Par exemple, je trouve que l'Institut du Monde Arabe s'inscrit bien dans la courbe où... Voilà, il y a des exemples quand même de réussite. Pour aller plus près du quartier, finalement, un architecte comme Henri Godin a beaucoup travaillé justement sur l'insertion de ces bâtiments, parfois même des logements sociaux dans le contexte de la rue ou du quartier. Et puis la deuxième remarque que je ferais, ce serait en faveur des paysagistes. Parce que malgré tout, il y a eu un développement de ce travail sur le paysage, y compris en ville, qui n'est quand même pas entièrement négatif. Par exemple, le parc de Bercy, quand on voit où il se trouve, réussit quand même à créer une sorte de lieu, d'oasis qui est fait appel aux technologies modernes, mais me semble assez réussi. Deuxième exemple, en banlieue, j'ai consacré autrefois dans un précédent essai un chapitre à Michel Corajou, paysagiste français, qui a d'ailleurs donné une définition du paysage qui est excellente. Le paysage, c'est l'endroit où la terre et le ciel se rencontrent, se touchent. Et il a fait au parc du Saussé, c'est-à-dire du côté du parc des expositions, il a créé un parc qui aujourd'hui, évidemment, a pris... Les végétaux ont pris leur croissance, et réellement, à deux pas des cités, c'est quelque chose. Et dernier exemple, je termine, la Courneuve. J'ai vécu 7 ans à la Courneuve. On a construit avec les gravats
qui avait servi à construire ces monstrueuses cités comme la cité des 4000, avec ces gravats, on a créé des collines artificielles, on a créé un parc, le parc de la Courneuve, et quand vous y êtes, ben malgré tout, vous sortez de cet environnement urbain oppressant.
Alors Benjamin Oliven, est-ce que vous partagez cette vision un peu plus optimiste?
Je pense qu'effectivement les architectes ont peut-être aujourd'hui une prise de conscience du fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond au XXe siècle. Le cas de Jean Nouvel, on parlait de la Philharmonie, est étrange parce qu'effectivement la Philharmonie, je crois que tout le monde peut se faire un avis sur ce bâtiment, mais j'ai vu des photos de ce qu'il a fait à Abu Dhabi, le Louvre à Abu Dhabi, et ça a l'air assez beau. Donc voilà. Et moi, je citerai aussi pour l'architecture des gratte-ciels Philip Johnson, qui a lui aussi essayé de repenser des tours, mais avec un ancrage classique et une inscription dans le classicisme grec.
Alors moi, je citerai à mon tour l'architecte de Beaubourg, parce que Beaubourg, c'est vraiment il est tombé d'un désastre obscur, comme dit Baudrillard, mais le même architecte a construit le musée Paul Klee à Bâle, qui s'inscrit totalement, avec ses ondulations même, dans le paysage de collines. Donc, effectivement, quelquefois, ils font mal et quelquefois, ils font bien. Mais merci pour ce que vous avez dit l'un et l'autre sur la beauté du monde. Je rappelle votre livre, Michel Collot, La face sensible de la Terre, paysage et écologie, aux éditions Le Pommier. Benjamin Oliven, votre livre, L'autre art contemporain, est disponible aujourd'hui dans la collection Point. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Adrien Gaza. La semaine prochaine, il y aura une rediffusion, La vie avec un chien. Mes invités sont Claudie Hunzinger et Cédric Sapin-Defour. Le 4 janvier, à la rentrée donc, l'émission aura pour titre Emmanuel Lévinas, la pensée juive et la philosophie. Mes invités seront Dan Arbib et David Aziza. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.